RTS La Première présente Mystifica Science, saison 2. Un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques. Avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini. Le déni des changements climatiques est passé par différentes étapes. Pendant un temps, les sceptiques disaient qu'il n'y avait aucun réchauffement. Et puis il y eut ensuite l'étape où le réchauffement global n'était pas lié aux activités humaines, nous disait-on. À ce moment-là, un chercheur eut une idée formidable. Mais, comme nous l'explique l'agente Leslie, son génie ne lui a pas rendu la vie facile.
Avant de venir à Ben Sander et à son travail sur la signature du réchauffement climatique, si vous le permettez, juste un mot pour vous rappeler une chose. Le 5 novembre 1965, ça remonte un peu tout de même, le comité consultatif scientifique du président américain Lyndon Johnson lui a envoyé un rapport intitulé Restoring the quality of our environment.
Donc, restaurer la qualité de notre environnement.
Oui. Dans ce rapport, une section est consacrée au lien entre le dioxyde de carbone, le fameux CO2, et les changements climatiques. Et cinq brillants climatologues expliquent très clairement au président de l'époque un processus qui est déjà très bien compris. L'effet de serre et son effet sur le climat. En fait, c'est un prix Nobel et chimiste suédois, Svante August Arrhenius, qui en 1896 a, le premier, compris ce principe. Il pense même que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il estime qu'avec le charbon qu'on brûle à l'époque, on va augmenter la température moyenne de la Terre de 4 degrés et pouvoir éviter une prochaine ère glaciaire.
Donc ce que vous voulez dire là, c'est que ces cinq brillants climatologues, comme vous les appelez, ne faisaient que répéter déjà en 65 une vieille rengaine.
Non, parce qu'en 1965, ils ont déjà beaucoup plus de données que ce cher Arrhenius. Ils arrivent déjà bien à distinguer le cycle naturel de CO2 avec la végétation, les océans, les volcans, à ce que les activités humaines ajoutent à ce cycle.
Ok. Donc en 1965, en gros, on a déjà tout compris.
On ne comprend jamais tout. C'est d'ailleurs l'un des arguments favoris des semeurs de doutes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en 1965, le président des États-Unis a déjà sur son bureau un rapport assez précis sur un problème que l'humanité semble avoir du mal à comprendre.
Bon, alors heureusement, vous êtes là et vous allez donc nous aider un peu.
Moi, je ne suis pas climatologue, mais c'est le métier de Benjamin Sander que tout le monde appelle Ben. Ben Sander est non seulement un brillant climatologue, mais il a une spécialité. Il cherche la signature du réchauffement climatique. En anglais, on dit fingerprint.
Donc les empreintes digitales.
Hein. Ouais.
C'est un peu comme dans une enquête policière. Ça, c'est les empreintes qui permettent d'identifier le coupable.
Exactement. Et c'est là que Sander a eu une idée de génie. Je vais vous l'expliquer. Vous le savez, il y a autour de la Terre une atmosphère. Mais sans elle, je ne serai pas là pour vous parler. Mmh. Et cette atmosphère se divise en différentes couches.
Bon, alors jusque-là, on vous suit bien.
Good. La couche la plus basse, celle où nous nous trouvons, c'est la troposphère. Son plafond se trouve à environ 15 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Au-dessus, entre 15 et 50 kilomètres, c'est la stratosphère. Ce que la physique nous dit, c'est que si le réchauffement de la température terrestre est dû à un autre élément que l'effet de serre...
Donc par exemple le rayonnement solaire, c'est ça?
Ah oui, oui, exactement. Dans ce cas, l'atmosphère, qu'elle soit haute ou basse, serait réchauffée de manière semblable puisque la source de chaleur serait externe. Par contraire, les gaz à effet de serre sont, eux, piégés, pour l'essentiel, dans la basse atmosphère. Donc, si ce sont eux les responsables, alors ce sera l'inverse. La troposphère sera réchauffée, mais pas la stratosphère.
Donc c'est un peu le plafond de la serre. Donc au-dessus, ça ne se réchauffe pas comme en dessous. Hein. Mm-hmm. Et c'est donc ça, cette signature que va chercher ce Ben Santer.
Oui, oui, il cherche et il trouve. Effectivement, le réchauffement global de la planète n'a lieu que en basse atmosphère. CQFD.
Donc Ben Santer est l'homme qui, en quelque sorte, démontre que ce sont bien les activités humaines qui sont la cause du réchauffement global.
C'est en effet l'un des chercheurs qui a scientifiquement répondu à cette question il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est pourquoi le GIEC...
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Ben voilà, le GIEC a donc demandé à Ben Santer de s'occuper du chapitre 8 de son second rapport rédigé en 1996. Chapitre 8, dont le titre était « Détection de l'évolution du climat et attribution de ses causes ». Il faut dire que Santer n'était pas ravi à l'idée de piloter ce chapitre très délicat. Mais finalement, le président du GIEC l'a convaincu d'accepter cette proposition.
Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il n'était pas ravi? Puisque finalement, ça semble être l'homme de la situation pour ça.
Oui, mais le GIEC est une énorme machine. Et Santer n'avait pas forcément envie de devenir un des auteurs principaux du rapport, parce que il savait que ça n'allait pas être de la tarte.
En effet, être un auteur principal dans un rapport du GIEC n'est pas une mince affaire. Il faut d'abord affecter des équipes scientifiques à la rédaction de chaque section du chapitre, puis produire un projet soumis à l'acceptation de l'ensemble des groupes d'auteurs. Ensuite, les gouvernements peuvent eux-mêmes fournir des commentaires. Ces remarques seront discutées avec l'auteur principal, puis acceptées ou non lors d'une séance plénière du GIEC. Et Ben Santer va découvrir toute la complexité de cette mécanique. En mai 1995, l'ensemble du texte élaboré par son groupe de travail est soumis à un examen complet par les gouvernements. Mais les retours des gouvernements tardent à venir. Certains n'arriveront pas avant la réunion plénière du 10 novembre. C'est que certaines phrases du rapport vont faire polémique, notamment une première conclusion qui dit, je cite, « Pris ensemble, ces résultats indiquent une influence humaine sur le climat ». Avant même que les gouvernements ne réagissent, le président du GIEC propose de remplacer le verbe « indique » par le verbe « suggérer ». Ainsi, ces résultats suggèrent une influence humaine. Mais comme l'expliquent Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur ouvrage « Les marchands de doute », cet aménagement dans le texte du chapitre 8 n'a pas suffi. Sans surprise, ce n'est pas seulement le message qui a été attaqué, mais également le messager. L'agente Leslie nous raconte.
Dès le rapport publié, Ben Santer comprend que sa vie de chercheur va devenir horriblement plus compliquée. Un article dans le Wall Street Journal explique qu'il a porté des changements au rapport du GIEC pour tromper les décideurs et le public. Il faut dire qu'avant même la parution du rapport, le Global Climate Coalition a publié un rapport intitulé « Le GIEC ». Nettoyage scientifique institutionnalisé, dans lequel on expliquait que Ben Santer a modifié le texte après acceptation de son groupe de travail, afin de supprimer les mentions d'incertitude scientifique. Ce rapport, vous l'imaginez, a été largement distribué aux médias.
Alors un rapport, vous l'avez dit, qui émanait du Global Climate Coalition, donc la coalition globale pour le climat, de quoi, de qui s'agit-il en fait?
En fait, C'est un groupe de pression représentant les intérêts des principaux producteurs de combustibles fossiles. Mmh. Un groupe d'ailleurs assez proche de l'Institut Marshall et de ses protagonistes, dont le physicien Fred Seitz.
Fred Seitz, mmh. Encore lui, on encore en a lui. Déjà parlé dans l'épisode sur la cigarette et sur la guerre des étoiles.
Hein. Là, il va signer cette lettre au Wall Street Journal dans laquelle il parle de corruption troublante de la science. Et il accuse Santer d'avoir notamment supprimé les allusions au scepticisme d'autres chercheurs.
Bon, est-ce qu'on peut comprendre de quoi l'accuse ce cher Seitz concrètement?
Il l'accuse d'avoir modifié certaines parties du chapitre 8 après que la version soit validée par les groupes de chercheurs ayant co-signé le chapitre.
Ok, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Oui, mais c'est vrai et pour une bonne raison, c'est son rôle. Une fois la version validée par les groupes de recherche, il y a encore la validation du gouvernement. Puis, une réunion plénière du GIEC est là. Il est souvent demandé à l'auteur principal de modifier un peu son chapitre. C'est donc le fonctionnement normal du GIEC et c'est d'ailleurs pour cela que Santer écrivait une lettre à l'éditeur du Wall Street Journal. Une lettre co-signée par 29 co-auteurs du chapitre en question pour expliquer qu'il n'avait fait que ce qu'il devait selon les règles du GIEC. Le président du GIEC de l'époque écrit aussi au Wall Street Journal pour expliquer, je cite, que si les contradicteurs avaient simplement pris le temps de se familiariser avec les procédures du GIEC, ils auraient compris qu'aucune règle n'avait été violée. Mais le Wall Street Journal, curieusement, n'a publié que quelques extraits de ces deux lettres. Et les semeurs de doute avaient atteint leurs objectifs. Car, vous le savez, aucune certitude ne résiste quand le doute a germé dans votre esprit.
Bon, y a une chose que je ne comprends pas, moi. Si effectivement Ben Santer a dû modifier son texte sous la pression de certains gouvernements, ça n'est certainement pas pour rendre son texte plus virulent sur les causes du changement climatique, non?
Ben Santer a souvent expliqué ce qui s'est passé. Au moment où les gouvernements pouvaient faire leurs commentaires, les délégations de l'Arabie Saoudite et du Koweït, pour des raisons bien évidentes, ont affirmé qu'il s'agissait de mauvaise science. Elles ont été rejointes par quelques délégations d'autres pays du Sud, comme le Kenya. À la suite de ce désaccord, une version du chapitre 8 allégé a été proposé et un groupe de travail a été créé pour négocier le texte qui finirait par figurer dans le rapport. Les Saoudiens et les Koweïtiens n'ont même pas envoyé des représentants au groupe de travail. Ils n'étaient, en fait, pas intéressés à discuter les sciences. Un météorologue kényan, lui, a rejoint le groupe. Il a discuté des preuves scientifiques avec des auteurs est convenu qu'un signal humain était indiscutable. Le Kenya a donc abandonné son opposition à une partie du texte et finalement, les délégués d'Arabie Saoudite et de Koweït ont fait de même. Il faut dire qu'ils n'avaient aucun argument scientifique.
Donc, il y a bien existé une version du texte moins, entre guillemets, gênante pour Fred Seitz et cette fameuse coalition globale pour le climat.
Oui, mais l'idée que Santer ait réécrit le chapitre selon ce qu'il a rangé, c'était une fable, ou plutôt un mensonge destiné à semer le doute. Cette même année, 96, une membre du Congrès républicain de Californie a écrit au département de l'énergie qui employait Santer et finançait donc son labo pour demander une enquête sur son travail et sa probité scientifique. Notons que l'enquête a clairement montré que Santer n'avait commis aucune faute. Mais aujourd'hui encore, Santer est harcelé dès qu'il publie un article scientifique. Il retrouve les rats morts devant sa porte ou reçoit des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Des menaces dont certaines sont directement transmises au FBI, car jugées sérieuses.
Oula, c'est assez terrible. Ça veut donc dire que la stratégie du doute a, a bien, bien fonctionné.
Ah oui, si l'on considère, comme je vous l'ai dit, d'un côté, qu'en 1965, de nombreuses évidences scientifiques étaient déjà consignées dans un rapport remis au président des États-Unis, et de l'autre côté, qu'il y a encore aujourd'hui une part importante de la population mondiale qui n'y croit pas, et même des personnes malheureusement très puissantes. On peut considérer que les semeurs de doute ont vraiment bien fait leur boulot.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Jean-Claude Gailly. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et parmi ces épisodes, il y a celui qui parle des doutes que certains ont instillés volontairement à propos du fameux trou dans la couche d'ozone.